La deuxième actualité à Dombasle, c'est la première loi adoptée par l'Union européenne sur les violences faites aux femmes. Donc cette première loi a été adoptée, mais le viol donc n'y figure pas.
Tout à fait, la première réglementation européenne contre les violences à l'égard des femmes ne comprendra pas une définition commune du viol. Le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne ne sont pas parvenus à s'entendre sur ce point.
Alors en quoi consiste cette réglementation ?
La directive comporte deux volets. L'un pénal et l'autre sur l'accompagnement et la protection des victimes. Sur le plan pénal, les législations des États membres sont hétérogènes. Il était nécessaire d'harmoniser le droit en créant tout d'abord une définition commune pour certains actes, afin qu'ils soient sanctionnés partout en Europe, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Tout cela est précisé par Nathalie Collin-Osterley, donc députée européenne. Le viol, le cyberharcèlement, mutilation génitale féminine, incitation à la violence en ligne, il fallait avoir un socle de définition commune, souligne l'eurodéputé. Par exemple, sur les mariages forcés, criminalisés explicitement dans 17 États membres et implicitement dans 7, rien n'est prévu en Roumanie, Lituanie et République tchèque. Donc tout cela est précisé aussi par Nathalie Collin-Sterley. La stérilisation forcée, elle, est criminalisée explicitement dans 7 États membres et implicitement dans 17. Rien de prévu en Lettonie, en Bulgarie ou encore en Finlande.
Oui, ce qui est tout de même problématique, effectivement. Donc c'est une réglementation là qui couvre de nombreux éléments.
Oui, un article a également été ajouté dans les heures qui ont précédé la conclusion de l'accord final, obligeant les États membres à sensibiliser au consentement sexuel et à promouvoir une culture fondée sur le consentement. Il comble également les lacunes juridiques de certains pays membres de l'Union européenne en matière de cyberviolence, y compris le harcèlement en ligne et la traque. Le cyberflashing, qui consiste à envoyer des images de son anatomie en ligne sans le consentement du destinataire, et le partage non consenti d'images intimes, également connu sous le nom de revenge porn, deviendront également des délits à l'échelle de l'Union européenne. Ces règles s'appliqueront également au partage d'images pédopornographiques générées par l'intelligence artificielle. Elles interviennent après, par exemple, que la star pop Taylor Swift ait été victime de deepfake de nu le mois dernier, et alors que des rapports inquiétants indiquent que les images explicites générées par IA sont de plus en plus nombreuses chez les mineurs.
Malheureusement, on n'a pas fini d'en parler, l'intelligence artificielle.
Exactement.
On va rester sur ce projet. Ce qu'il faut noter, c'est que les victimes, vraiment, elles sont au cœur du projet.
Exactement. De l'information au dépôt de plainte, à l'accompagnement, à l'accueil, les obstacles restent extrêmement nombreux. Ainsi, cette loi présente des propositions très concrètes, notamment pour bénéficier d'une évaluation personnalisée de la situation des femmes, ainsi que la mise en place de mesures de protection des victimes en délivrant des ordonnances de protection et des mesures d'éloignement, notamment à l'auteur des violences, qui doit quitter le domicile conjugal. Chaque État membre devra pouvoir héberger dans un refuge une famille pour 10 000 habitants.
Mais donc, et cela pose question tout de même, il n'y a pas encore de définition commune du viol.
Non, la France et l'Allemagne se sont retrouvées sous le feu des critiques pour avoir bloqué la criminalisation du viol à l'échelle européenne, alors que le soutien de l'un ou de l'autre aurait suffi à faire passer la définition fondée sur le consentement. Un porte-parole du gouvernement français précise à Euronews que cette proposition était basée sur des motifs purement juridiques, étant donné que le droit pénal est une compétence des États membres et que par conséquent, le viol doit être poursuivi au niveau national. De plus, la France dispose de peines parmi les plus strictes de l'Union européenne pour les agressions sexuelles, ajoute le porte-parole.
Oui, oui, si j'ai bonne mémoire dans les échanges qu'il y a pu y avoir, la France craignait au contraire que les victimes en France soient perdantes avec cette définition commune.
Voilà, parce que, par exemple, un oui suffisait pour que ce ne soit pas considéré comme un viol. Il n'y avait pas la notion de menace, par exemple. Si le oui était obtenu sous la menace, eh ben, le oui était quand même donné. Et la France avait peur que cette définition soit justement...
Donc les arguments de la France sont objectivement plutôt recevables.
Exactement. Et le but, ce serait sans doute à l'avenir d'essayer de convaincre de faire une définition plus stricte.
C'est bien noté. On va passer à la troisième actualité, Adam. Rémunération, indemnité, retraite. Ah, c'est une question qu'on se pose parfois. Combien gagne un député européen ?
Comme tous les élus, les eurodéputés perçoivent un salaire durant l'exercice de leur mandat, ainsi qu'une rémunération complémentaire pour couvrir leurs dépenses ou payer leurs assistants. Quels en sont les montants? Sont-ils mieux payés que les députés de l'Assemblée nationale? C'est une question qu'on va se poser justement.
Eh bien, vous allez nous donner les réponses. On commence par la rémunération de base.
Alors, depuis juillet 2009, tous les eurodéputés reçoivent la même rémunération, qu'ils soient français, allemands ou bulgares. Après ponction de l'impôt européen et des cotisations sociales, la rémunération nette mensuelle est de 7 776,06 €. À titre comparatif, les députés de l'Assemblée nationale française perçoivent depuis le 1er janvier 2024 une indemnité de base de 7 637,39 € brut mensuel, c'est-à-dire 5 953 € net soumis à l'impôt sur leur revenu, soit 1 822 € de moins qu'un eurodéputé.
Autrement dit, c'est une bonne situation, eurodéputé.
Exactement.
C'est pas fini. Il y a aussi les indemnités.
Oui, en plus de leur salaire, les eurodéputés perçoivent également deux types d'indemnités. La première est l'indemnité de frais généraux de 4 950 € par mois en 2024, qui vise à couvrir les frais de gestion de la permanence d'un député dans son état électeur. Téléphone, internet, équipement informatique, etc. Cette dernière est réduite de moitié pour les députés qui, sans justification valable, n'assistent pas à la moitié des séances plénières d'une année parlementaire. Le Parlement européen verse une seconde enveloppe, l'indemnité forfaitaire de 338 € par jour. Elle sert notamment à couvrir les dépenses, les différents frais relatifs justement à chaque jour de présence à Bruxelles ou à Strasbourg, frais d'hôtel, de repas, etc., afin d'assister aux séances plénières ou aux réunions de commission.
Petite parenthèse, j'ai souvenir d'un reportage où l'on voyait tous les eurodéputés venir pointer le matin et repartir aussi sec. C'était pour indiquer qu'ils assistaient entre guillemets aux séances, donc.
Oui, il y a eu des dérives à ce niveau-là. Maintenant, c'est beaucoup plus cadré pour justement les...
On ne peut plus venir le matin et repartir aussitôt. Ça ne marche
non,
plus comme
maintenant,
ça. Il faut vraiment être présent.
Voilà, exactement.
Comment cela se passe à la fin du mandat?
À la fin de leur mandat, les eurodéputés peuvent toucher une rétribution temporaire du montant de leur salaire. Une année de mandat donne droit à un mois d'indemnité et la durée maximale de versement étant plafonnée à 2 ans. À partir de 63 ans, les anciens eurodéputés ont aussi droit à une retraite. Celle-ci s'élève pour chaque année complète d'exercice d'un mandat à 3,5% de la rémunération de l'eurodéputé.
Alors en parlant en pourcentage, c'est dur de se rendre compte, c'est intéressant ou pas ?
Justement, tout dépend du temps qu'on a passé au Parlement européen, parce que justement, le temps de retrouver un emploi, en quelque sorte, on touche une indemnité en fonction du temps qu'on est resté eurodéputé. Et 3,5% de la rémunération, disons que c'est moins élevé qu'un député français.
Ok. Enfin, il existe une enveloppe, bien sûr, pour rémunérer les assistants.
Oui, en 2024, les parlementaires européens disposent de 28 696 € par mois pour payer leurs assistants et d'éventuels stagiaires. Cet argent n'est cependant pas versé aux eurodéputés. Les assistants sont directement rémunérés par les services du Parlement européen. Il existe deux types d'assistants parlementaires qui peuvent être engagés par les députés européens. Les assistants accrédités, donc qui les accompagnent justement au Parlement européen ou autre, et les assistants locaux qui servent en quelque sorte à la permanence dans les États membres.
Près de 30 000 euros, ça permet de rémunérer quelques assistants.
Voilà, d'être
ça
plutôt
permet
bien
d'avoir une belle équipe.
Voilà, exactement.
Eh bien, merci beaucoup, Adam Bailly, pour toutes ces précisions. Une fois de plus, grâce à vous, on a appris beaucoup de choses aujourd'hui. On se retrouve dans 15 jours pour de nouvelles actualités européennes.
À bientôt.